à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Nous sommes toujours très heureux d'être en contact avec vous. Quand il sonne 11h, passé de quelques instants, bien sûr, c'est déjà sur notre radio ici à Lomé, également dans le studio bleu, bien sûr, alors de la nouvelle génération. Nous sommes au mardi 20 août 2024 et 11h, c'est l'heure du démarrage alors de l'émission Club de la Presse. Nous sommes au deuxième numéro de l'émission pour le compte alors de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dacoutet est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Vous êtes très nombreux à nous suivre alors partout au Togo grâce alors à nos radios partenaires. Il y a Radio Lumière à Niakhor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Merci aussi à vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Et ces deux plateformes qui sont dirigées par notre ami et cher ami, bien sûr, Jérôme Dacoutet. N'oubliez pas, vous êtes aussi en contact avec nous dans le monde entier grâce à nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Adam Adronou, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont branchés sur la 93.7, la radio de la nouvelle génération. Et
j'espère que tu vas bien.
Ça va.
On a démarré la semaine.
On a le sourire de vie, ça va.
C'est l'essentiel. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est un plaisir.
Eric Parkoudjo, Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Adam, bonjour cher René. Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Ça peut aller. Ça
et le moral,
ah,
ça va.
Robot fixe. Hein,
d'accord, Dieu merci. C'est l'essentiel. Alors, tu as salué l'aîné tout de suite, parce que déjà, nous sommes au mardi. Mardi, nous avons la chronique littéraire. Nous démarrons cette émission avec cette chronique. Et Claude Tiss Asiobo est là. Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Oui, moyennement.
D'accord, Dieu merci. Ce n'est plus à la Togolaise
aujourd'hui. Non, un Togolais ne peut pas avoir l'esprit au beau fixe. Hein.
Ah bon?
À mon avis, c'est moyen. Oh,
là, c'est pour me tacler.
Oui, c'est pour vous tacler.
D'accord. Alors, Claude, c'est vrai que les semaines antérieures, nous avions parlé de la lecture et les jeunes, c'est-à-dire le lien qui existe entre la lecture et aussi la nouvelle génération. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'impact de la lecture en général. Alors, Claude, est-ce que quand on parle de la lecture, est-ce une nécessité ou un simple loisir?
Bon, c'est une nécessité, un simple loisir, c'est les deux. Mais je vais d'abord définir ce que c'est que la lecture. Hein, définir ce que c'est que la lecture, c'est en réalité une question banale. Peut-être que vous allez la poser, mais je vais la dépenser. Je vais commencer par ce que n'est pas la lecture. Les gens croient que tout ce qu'on fait, c'est la lecture. Ce que n'est pas la lecture, c'est ce qu'on appelle une définition négative de la chose. Il y a ce qu'on appelle la lecture professionnelle. Par exemple, un économiste qui lit encore des livres d'économie. Un juriste qui lit encore des livres de jurisprudence ou de droit pour s'approfondir. Il ne lit pas. C'est une simple révision de leçon. Hein? C'est une simple révision de leçon. Il ne lit pas. Et tout au plus, il fait des recherches.
Voilà.
Et il y a ce que, je viens à ce que tu as dit, là, tu as parlé même de lecture nécessité. On peut dire que, bon, c'est une lecture nécessité, mais qui n'est pas ce qu'on appelle une lecture. Hein?
Et puisque c'est une forme de révision telle que tu
l'as dit. De révision de leçon. Voilà. Alors, il y a la lecture loisir. Lecture loisir, lecture d'évasion. Ce n'est pas non plus une vraie lecture. Hein? Là, souvent, ce qu'on recherche, c'est des histoires intéressantes et palpitantes. Mais il ne suffit pas d'avoir une histoire palpitante. Et ça, je m'adresse également aux écrivains, d'écrire une histoire palpitante pour avoir un vrai livre. Après l'histoire, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire? Sinon, ce livre où il n'y a que de l'évasion, hein, de l'évasion, on cherche à rêver, hein, c'est comme un faux médicament. Apparemment, ça a l'apparence d'un médicament, mais c'est un faux médicament parce que le principe actif n'y est pas.
Alors, est-ce que ça veut dire que, Claude, oui, quand on va vers la lecture, alors la lecture de n'importe quel ouvrage, hein, est-ce que ça veut dire qu'il y a certains ouvrages qui donnent plus de connaissances que d'autres?
J'en viens. Alors, qu'est-ce que la vraie lecture? La lecture même, et tu as bien fait de poser la question. Je vous dirais qu'on lit pour s'enrichir en vocabulaire et en idées. À travers ce que mon ami Guy Missouri appelle la jouissance esthétique. La jouissance esthétique, si possible. Parce que c'est toute une gymnastique. Hein? Surtout lorsqu'il s'agit des œuvres littéraires. Et c'est une gymnastique intellectuelle et il faut être même initié. Il y a un auteur qu'on appelle Robert Scarpite qui parle de la trahison, de l'aptitude d'une œuvre à la trahison. Plus une œuvre est capable d'être interprétée, réinterprétée, sous mille angles, alors cette œuvre-là se prête à cette gymnastique esthétique et intellectuelle. Et voilà, on revient à la notion de la profondeur. Voilà. C'est ça. C'est ça la lecture. Et c'est ça qui donne de la santé mentale à un lecteur.
Et aussi
ce n'est pas psychique. La lecture psychique. Ce n'est pas rester là, enregistrer passivement. Et c'est ça. C'est un peu ça. Hein? Et là, et je vous dis que parfois, il faut être initié. Hein? Ça peut être. Il y a des livres même qui sont amers, mais qui sont aigres doux. Et pour ça, il faut être initié. Hein? Le commun des mortels va le lire, va trouver ça ennuyeux. Mais si on lui donne les clés, mais il va s'y accrocher. Toute sa vie. Alors,
est-ce que Claude, ça veut dire qu'on doit avoir au moins des prédispositions avant d'aller vers la lecture?
Oui, bien sûr. D'abord, il y a l'habitude de lecture. Quelqu'un qui lit souvent, hein, c'est comme le sport. Hein. Le corps devient souple, l'esprit devient souple. Il a des intuitions, il voit. Oh, il peut même ne pas être un homme de lettres, hein, mais très brillant. La preuve, ceux qui font ça, ils arrivent même à devenir de grands écrivains. Un mathématicien, agronome, hein, ils deviennent de grands écrivains. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Et je peux vous dire que cette gymnastique-là, qui, lorsque c'est à la portée des gens, les gens qui sont capables de cette gymnastique-là, sont des gens qui ont une souplesse dans l'esprit. Et c'est pourquoi je dis souvent, le livre ne se livre qu'aux esprits libres, capables de bouger dans tous les sens.
Voilà. Si vous pouvez répéter, puisque c'est intéressant.
Le livre ne se livre qu'aux hommes libres. Et ça va loin, même dans les pays où il y a trop de censure. Ça censure la création littéraire et ça censure aussi la lecture. Parce que les œuvres qui naissent sont des œuvres anémiées dès la naissance.
Claude, ouais. Je me souviens de cette journaliste qui était partie dans le salon des livres à Paris, et quand elle est sortie, elle déclarait ceci: il n'y a jamais de mauvais livre pour un lecteur vorace. Est-ce que vous vous portez peut-être en faux contre cela?
Il n'y a jamais de mauvais livre. Oui, c'est possible. Hein? Ça, c'est une question de langue. Lorsqu'on est très habitué, Il y a un livre que vous pouvez trouver comme un livre d'évasion, mais celui qui est bien initié, il va en sortir des choses comme un précisateur. Hein? Comme un précisateur, vous dites, mais où est-ce qu'il trouve tout ça là? Et le livre devient riche. Et parfois, l'écrivain même se dit, mais s'il est là, mais moi j'ai dit tout ça. Il y a eu cette expérience-là avec Claudel. Il est invité pour la commande de sa propre livre. On lui a réexpliqué son livre et à la fin, il a dit « Comment j'ai pu dire tout ça ?» L'écrivain dépose plus de choses que lui-même.
Qu'il en reçoit.
Oui, voilà. Non. Qu'il n'est pas toujours conscient.
Tout à fait.
Hein? C'est tout un réseau de connaissances.
Ok. Eric a une question pour vous.
Oui, Claude. Quand vous dites que la lecture, c'est bien pour les esprits libres.
Oui.
Quand je prends par exemple un prisonnier,
oui.
Quelqu'un qui est en prison.
C'est le meilleur lecteur, le prisonnier.
Alors, en ce moment-là, est-ce que c'est un esprit libre? Parce
oui.
qu'il se bat pour sa libération.
Oui.
Et là, il devient un meilleur lecteur.
Oui, mais oui, là, c'est le paradoxe. Celui qui est en prison, il est privé seulement de son mouvement. Oui. Mais il n'est pas privé de son esprit, hein? Et c'est l'occasion idéale de s'approfondir, de grandir. Et parfois même, on a l'impression que la prison éclate lorsque quelqu'un qui se consacre. Lorsque moi je vais visiter un prisonnier, ce que je lui offre souvent, c'est un livre. La prison ne va plus exister.
Peut-être que c'est le meilleur cadeau.
C'est le meilleur cadeau. Et même Pascal disait que notre misère dans ce monde, c'est que nous ne savons pas nous reposer un peu. De nous concentrer à nous-mêmes et vous regardez notre intérieur. La prison permet ça. Hein? Et la prison, je vous dis que c'est un paradis pour le lecteur.
Claude, alors, pourquoi demande-t-on alors de lire, alors que d'autres institutions, hein, comme la religion, l'école, l'expérience personnelle, nous construisent déjà à merveille?
Non, ces institutions-là sont des institutions cardinales, mais beaucoup se posent la question. On dit, bon, est-ce qu'on a besoin de lire lorsqu'on a fait déjà l'école, tout ça? Bon, c'est pas la peine. Bon, vous avez parlé de l'expérience personnelle. Je vais prendre ces notions une à une. Vous avez parlé de l'expérience personnelle. C'est privilégié dans la vie, et c'est irremplaçable même. Et au point que Amadou Ampateba compare un vieillard qui meurt à une bibliothèque qui brûle. Ouais. Hein, parce que c'est une expérience inédite, hein, et unique, lorsque vous rencontrez un vieillard. Et ça vous donne des raccourcis dans la vie. Et il compare ça à une bibliothèque, toute une bibliothèque. Alors on peut se poser la question, pourquoi lorsque, en vivant, hein, comme une bibliothèque, on va encore chercher à ouvrir les livres qui ne sont souvent que des fictions. Mais le problème, c'est que chaque expérience personnelle est limitée. Nous allons mourir. Et nous ne pouvons pas vivre toutes les expériences de la vie. Je prends la religion. Je peux vous dire quelque chose. Un grand banquier qui ne sait que lire des billets de banque, c'est le pasteur imberbe ou l'imam imberbe de son quartier qui va le manipuler parce qu'il ne sait pas lire la Bible ou le Coran des lignes. Hein? Et tout grand banquier qu'il est, c'est un petit voyou pasteur qui va lui raconter des histoires et puis de sur la Bible et tout ça. Voilà, parce qu'il ne sait pas lire les lignes. Alors que même la Bible et le Coran, c'est des livres entre guillemets de littérature. C'est des œuvres littéraires. Je vous donne l'exemple seulement des paraboles. Hein? Et si vous ne savez pas les lire, vous allez transformer la lecture littéraire. Les angles multiples que donnent ces œuvres-là en lecture littérale. Hein? Lecture littérale, lecture littérale. Et je prends l'école et je vais chuter là-bas. Mais au centre de tout établissement scolaire, il y a la construction d'une bibliothèque qui donne un sens à ce centre de formation. Là où il n'y a pas de bibliothèque, c'est une école assez pauvre. Hein? Et je vais vous dire une chose. D'ailleurs, l'élève ou l'étudiant qui sait prendre note, et qui sait bien lire ses cours, qui sait prendre note, c'est celui qui a le poids, qui connaît le poids des mots. Hein? Mais c'est la lecture assidue qui vous donne cette aptitude à connaître le poids des mots pour prendre l'autre. Sinon, vous voulez tout prendre. Manger la poule avec ses poids, les plumes. Et je peux vous donner un exemple. Un simple, je vais chuter vraiment pas là. Parce que la lecture permet d'exprimer sa propre grammaire que la grammaire qu'on a dans les livres. Je vous donne un exemple, je chute là. Voilà deux étudiants qui adressent une lettre d'amour à leur camarade jeune fille. La même fille. Elle écrit, mademoiselle, je t'aime. Il n'a rien dit. L'autre écrit, mademoiselle, vous me grattez dans mon sommeil. Entre les deux, qui a plus exprimé sa grammaire, son émotion? Vous voyez, même la fille, hein, sera plus sensible à la deuxième lettre que je t'aime que tout le monde peut dire.
Mais toujours est-il que la fille aussi doit être aussi dans cette dimension de comprendre aussi.
Non, elle n'a pas besoin. Si vous dites à une fille, hein, la fille est très sensible, hein, mademoiselle, vous me grattez dans mon sommeil. Ça lui dit beaucoup de choses. Quand je lui dis, je t'aime.
D'accord. Voilà. Donc, c'est un expérimenté qui parle. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai, on aurait voulu, bien sûr, connaître plus aussi quelque chose sur le fait que les Africains ne lisent pas, puisque c'est commun, mais on va
y revenir.
Tout à fait, on va y revenir.
C'est un sujet très profond.
Très profond, et on va
en débattre.
Tout à fait. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission.
Et pour ces rendez-vous littéraires.
Tout à fait. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous, pour ce rendez-vous littéraire tel que vous venez de le dire. Alors, chers confrères, nous allons parler alors de nos sujets, faire le débat en studio. Bien avant, je vous livre alors cette note d'information, ou je livre cette note d'information à mes auditeurs. Alors, il y a un changement important est survenu dans le format d'organisation de cette troisième édition de la semaine du e-commerce 2024, initialement prévue en format hybride, c'est-à-dire en présentiel et distanciel. L'événement se déroule finalement exclusivement en ligne sur les plateformes numériques dédiées. Aucune cérémonie de lancement, panel ou formation ne se tiendra en présentiel. Tout se déroule en ligne sur la page Facebook. La semaine du e-commerce au Togo, et pour tout renseignement, contactez le 91 96 77 77. Je rappelle le numéro 91 96 77 77. Alors, chers confrères, nous allons démarrer cette émission avec le premier sujet, c'est bien le sport. Nous savons justement que le vendredi dernier, il y a le nouveau sélectionneur du Togo, Nibobé Daré, qui a signé son contrat. Ce contrat qui a fait tellement de polémiques, ou du moins déjà à la suite alors d'une crise, bien sûr, ou qui a provoqué une petite crise, dont nous avons même parlé dans ce studio hier. Il y a le journal L'Équipe qui revient sur le sujet. L'équipe écrit « Épervier a le prix à payer ». Et le prix à payer, bien sûr, l'équipe met à la une alors du journal. Il y a Nibombé Daré qui est au milieu de Koubadia Kader et Abalo Dossé. Alors, Adam, finalement, quand on voit tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que le vendredi dernier, ce contrat ne soit signé, ou Nibombé Daré ne signe alors son contrat, est-ce que ça a été peut-être alors du folklore?
Non, c'est pratiquement malheureux. Vous savez, ce qui se passe pour la plupart du temps, et pour une première fois d'abord, il faut le dire, ou pratiquement que ce soit l'opinion togolaise, que ce soit aussi les acteurs de ce football-là, ont été unanimes. Lorsque vous voyez les appréciations qui se font ça et là, vous constaterez que tout le monde a été unanime sur le choix, en tout cas d'un compatriote pour diriger ce football-là qui, depuis un certain temps, est resté, en tout cas, orphelin des sensations qu'on lui connaît d'antan. Mais je le disais tantôt, parlant d'onde, je disais que c'est malheureux parce que lorsque survient, je pense qu'un désaccord dans ces genres de contrats, on a tendance à voir ces acteurs-là qui s'en voudraient, ils s'en veulent la plupart du temps, s'en mêler et justement amplifient en réalité ce qui ne devait pas l'être. Et c'est ce qui a été donc constaté. Et je pense que c'est une tempête pratiquement dans un verre d'eau, des incompréhensions, où normalement, nous, en tant que Togolais, que ce soit les acteurs que vous ne voulez pas, ou non, et lorsque on s'entend, d'abord pour faire cette expérience, parce que c'est l'une des rares fois où un Togolais prend les rênes véritables de ce football-là, où nous savons pertinemment qu'il est miné par plusieurs problèmes. Donc je pense qu'au lieu que le regard aille vers un consensus, encourager les uns des autres à pouvoir donc revenir en de meilleurs sentiments pour qu'on trouve une solution idoine, favorable à tous les Togolais, on a tendance à pouvoir donc mêler les différends qu'on connaît d'antan entre acteurs et le gouvernement, lorsqu'on parle donc du ministre des Sports, puisque c'est son nom qui est venu. Et lorsque même vous les approchez en réalité, le problème n'avait pas besoin de pouvoir l'amplifier comme on l'a constaté. Et je pense que cette amplification ne nous arrange pas pour la plupart du temps. Fort heureusement que, en tout cas, les accords, les négociations de couloir ont pu permettre de trouver un accord satisfaisant et que ce contrat-là est signé. Je pense que l'essentiel, c'est qu'on puisse faire l'expérience de ce compatriote-là à la tête de ce football, comme je le disais tantôt, miné par plusieurs problèmes.
D'accord. Eric, finalement, le contrat a été signé. Est-ce que tout ce qui s'est passé avant qu'on ne signe alors ce contrat, ça a été quand même que du temps perdu?
Je voudrais dire un truc à nos compatriotes, à nos concitoyens. Je pense que nous ne nous faisons pas confiance.
Comment
tout,
ça?
Tout ce qui s'est passé là, c'était juste une question de confiance entre les différents acteurs du football togolais. Alors, c'est le 15 juillet dernier que le président de la fédération a annoncé quand même l'arrivée de Nibombé Daré comme sélectionneur national. Je prends juste le cas de ses prédécesseurs. Jamais on n'a entendu dire que la fédération ou le ministère a imposé un adjoint à un sélectionneur. Le sélectionneur, tout ce qu'on a eu, il venait avec leur équipe. Pourquoi alors on a voulu imposer quelqu'un à ce nouveau sélectionneur qui plus est un compatriote? La première question se trouvait à ce niveau. La deuxième, c'est que quand j'ai eu à fouiner un peu, on m'a dit tout simplement que quel que soit ce qui va arriver, Nibombé Daré va signer. Je dis, mais il va signer dans quelles conditions? Si déjà on lui impose un adjoint et que le gars dit, c'est pas ce que je suis venu faire. Mais vous lui imposez quelqu'un et que les résultats escomptés ne sont pas là, alors à qui vous allez demander des comptes? Je crois que tout ce qui s'est passé autour de cette officialisation du sélectionneur national, c'est une question de confiance. Vous prenez des sélectionneurs étrangers, vous les laissez faire, mais on n'a pas les résultats. Vous prenez maintenant un sélectionneur national et vous lui imposez des gens. Vous vous attendez à quoi? À des résultats? La fédération avait tout simplement dit, et là, je crois qu'il y a eu une interview du secrétaire général, monsieur Agbodan,
oui.
Tité et Hervé, qui a dit clairement que Nibombé Daré aura les coups de France pour travailler. Mais au vu de ce qui s'est passé, est-ce que aujourd'hui, très sincèrement, Nibombé Daré aura les coups de France pour travailler? Je m'en tiens tout simplement à ce qu'a dit le secrétaire général de la Fédération de football, tout en me référant un peu à tout ce qui s'est passé au ministère des Sports. Le ministère des Sports s'entend-il bien avec la fédération pour que nous puissions avoir des résultats? Je crois qu'il y a un problème de confiance.
D'accord.
Et qu'il faut régler en amont avant de mettre Nibombé Daré sur les selles.
D'accord. Ok, merci beaucoup Eric. Nous sommes rejoints par Justin Anani. Justin, bonjour.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va.
D'accord. Alors, oui, mais nous sommes en train de discuter alors de cette question du football avec ce contrat signé par Nibombé Daré. C'était le 16 août dernier, c'est-à-dire le vendredi. Alors, finalement, par rapport même d'ailleurs à tout ce qui s'est passé, hein, jusqu'à ce que le contrat ne soit signé, est-ce qu'aujourd'hui, Nibombé Daré aura vraiment les coups des franches pour travailler?
Bon, de quand parleront de ouf de soulagement, parce que finalement le contrat est signé. Mais quand vous analysez les contours, le processus dans lequel ce contrat a été signé, il y a lieu quand même de s'interroger. Moi, du point de vue de mes analyses, je me dis que le ministère des Sports, qui étant politique et qui en réalité ne devait pas trop s'immiscer dans les affaires, s'est invité à un moment malsain. Parce que le ministère des Sports, en collaboration avec la Fédération Togolaise de football, aurait dû peut-être définir l'approche pour le carnaval autrement, en parlant de collège d'entraîneurs pour les épaisses, bien sûr les nationaux, pour ceux qui sont partis de l'autre côté, qui ont tellement de la matière, de l'expérience aujourd'hui, pour remplacer d'habitude les expatriés que nous avons. Si le débat a été posé sur cet angle-là dans les premières heures, ou dès les premières heures, je pense que le débat serait autrement. Mais l'idée est que voilà, cette fois-ci, on veut essayer avec l'un de nos compatriotes qui s'y connaît dans la matière. Donc à partir de ce moment-là, je pense que le ministère n'avait plus d'obligation de dire voilà, vous êtes retenu au-delà de tout protocole, tout engagement à signer un contrat avec vous, mais nous vous imposons X. Tel que c'est parti, le débat est mal ficelé. Et surtout que dans les dernières périodes, il a été annoncé que Kader assumerait l'intérim en attendant que les clauses ne soient quand même véritablement définies. Et nous en sommes là lorsque on parlait de la signature du contrat le vendredi. L'autre interrogation qui m'amène peut-être à douter un peu de la sincérité du travail qui sera fait relève du fait que est-ce que véritablement telles que les bases ont été posées entre Kader et Daré, et qu'aujourd'hui c'est Daré qui est retenu. Maintenant, Kader est là au titre de quel poste? Premier sélectionneur adjoint ou deuxième sélectionneur adjoint? Le travail va se faire comment? Étant attendu que les intentions de Daré, c'était Abalo Doucet qui devait quand même être son adjoint. On a vu, lorsque Diouaté était ici, donc son adjoint direct qui était avec lui sur les bancs lorsque le Togo jouait, c'était un Burkinabé, c'est un entraîneur Burkinabé qui aussi s'y connaît dans la matière. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Paolo Duarte, avant de venir ici, a déjà un staff avec lequel il a l'habitude de travailler.
Donc, et ce staff, Nibobé Daré aussi là,
tout à fait,
avant de venir.
Et c'est là où je dis que le ministère des Sports est invité maladroitement dans cette affaire. Et ça fait qu'il y a lieu quand même de s'interroger. Bon, ça va se jouer comment? Ça va se passer comment? Tel que les choses sont passées récemment, et ça ne donnait pas l'impression comme quoi on montait X contre Y dans un même groupe. Là, j'analyse. On aurait dû dire, voilà, ok, les compatriotes sont partis se former dans le domaine. Aujourd'hui, ils ont la matière. Nous voulons un collège d'entraîneurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Daré, vous êtes là. Abalo Doucet, vous êtes là. Kader, vous êtes là. S'il y a encore d'autres, essayez de vous concerter, faisons en sorte qu'il y ait un collège d'entraîneurs, un staff et avec lequel on va travailler et on va encore expérimenter. Mais ça n'a pas été dit et un appel a été lancé, quelqu'un a été retenu. Maintenant, le ministère s'invite pour dire non, ok, en dehors de tout ce que vous proposez dans votre cahier de charge, votre projet, voilà, nous vous imposons. Ça, il faut déjà le débat. Mais tout compte fait, moi, je pense que, et en toute sincérité, les trois qui sont retenus aujourd'hui, en dehors des autres qui sont dans le staff, doivent se retrouver et rassurer l'opinion.
D'accord, merci beaucoup.
Non, je crois que, vous savez, le débat là est loin d'être tranché ici ou d'être clos. C'est pourquoi je disais tantôt que les Togolais eux-mêmes ou les acteurs du football eux-mêmes ont essayé donc d'amplifier ce qui ne devait pas être. Lorsqu'on. Mon frère dit tantôt que le ministère s'est invité maladroitement, je pense que. Nous n'avons pas eu écho justement de la manière dont on procédait avant concernant donc le pour retenir donc les sélectionneurs. C'est ce qui a fait dire aujourd'hui. Sinon, c'est le ministère qui recrute le sélectionneur.
Mais est-ce que le ministère imposait?
Mais on ne sait, ça dit qu'on ne sait pas comment ça se déroule. C'est justement parce que ceci s'est mis à la place publique qu'on a tendance à croire que voilà, un sélectionneur, il est pris, donc il vient donc avec tout et que vous acceptez tout parce que vous attendez des résultats. Je pense que vous attendez des résultats, mais quand même, vous avez des exigences. En tout cas, en ce qui concerne les clauses du contrat, vous avez des exigences. Et lorsqu'on connaît aussi ces acteurs-là, hein, tous ces acteurs, on les connaît. Lorsque vous savez que celui-ci ne peut pas vous apporter des réponses, ce n'est pas parce que le sélectionneur est désigné et que fondamentalement, ce sélectionneur vous apporte celui que vous ne désirez pas. Il y a lieu quand même de s'interroger sur ces acteurs-là qu'on connaît pratiquement. Donc, ce qui me fait dire aujourd'hui que ce sont les Togolais, plutôt celui qu'il faut incriminer, sont ceux-là qui ont amplifié le problème, pour que le problème prenne cette ampleur-là. Justement parce qu'il faudrait quand même qu'on ait les deux axes, ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est retenu, je pense que c'est Le juste milieu, hein, concernant donc les deux acteurs qui étaient donc la corde du discours.
Justement, il y a un terrain qui a été trouvé.
Qui quand même les deux, même si Nibombé Darianta disait lui ne s'oppose à rien, de toutes les façons, c'est lui qui a dit voilà ce que vous me proposez, je ne suis pas d'accord. Et voilà. D'accord. Donc je crois que ce sont des discussions qui ont déjà existé. Rien de nouveau de toutes les façons.
Ok, Justin, vous voulez ajouter quelque chose?
Si je parlais tout à l'heure d'une invitation maladroite de la part du ministère des Sports, c'est pour la bonne cause, parce que généralement il y a une procédure qui se fait. Si le ministère des Sports est en très bonne entente avec la fédération de football, c'est les deux qui discutent de ce que nous voulons. Et là, l'appel d'offres est lancé à la recherche de l'entraîneur. Et après étude, avec une commission formée au niveau de la fédération, ou éventuellement avec l'apport également des autres partenaires acteurs, on retient parmi les candidats, tout ce monde-là qui ont postulé, donc quelqu'un qui répond à l'entente, aux ententes de la fédération.
Et le dossier de Nibombé Daré a été étudié minutieusement.
Donc si ça a été fait, ça voudrait dire que lorsque c'est retenu, la fédération communique le nom qui est retenu au ministère. C'est là où les discussions sont enclenchées. Par rapport aux intentions, par rapport au projet, tout et tout. Voilà, vous voulez qu'on vous paye tant, nous vous proposons tant, maintenant, nous voulons que ça se passe comme ça. Et c'est après que, lorsqu'il y a attente entre les parties, donc le dossier est remonté au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et les acteurs qui sont concernés, partant de là, le contrat est signé. Ça, c'est le format partout, ça se passe, mais vous avez également écouté. Et vous avez eu écho de ce qui s'est passé au Cameroun.
Au Cameroun,
voilà.
Ça a été différent ici.
Non,
lorsque
la politique s'invite, et je parle du fait que le ministère n'a pas vocation à imposer au sélectionneur qui est retenu, qui a une équipe de travail, qui a un staff, quelqu'un d'autre que lui, dans son projet, n'a pas proposé.
Mais c'est ce que la population, c'est pourquoi il n'y a pas des acteurs qui tentent à nous faire croire que c'est le ministère qui impose le schéma que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que nous c'est pas quand même, on s'y connaît du football, mais justement nous n'avons pas de leçons à donner. Mais je vous dis, le schéma, c'est le schéma qui est toujours retenu. Ce n'est pas fondamental, c'est ce qu'on a tendance à faire dire, à faire croire à l'opinion que voilà, c'est le ministère qui est imposé et le ministre son nom en tête de crime. Mais je vous dis, c'est le même schéma.
Mais on a écouté quand même.
C'est le même schéma. Mais vous n'avez pas écouté le ministère.
Le ministère a parlé. Eric, finalement, aujourd'hui,
il a imposé le sélection.
Non, le ministère ne peut pas. Il n'a pas dit qu'il a imposé.
Le ministère avançait le montant 12 millions, 14 millions, alors que ça n'a jamais été discuté.
C'est ce que, d'après Nibombé Daré, bien sûr, ça n'a jamais été discuté. C'est ce qu'il a dit. Alors, finalement, Eric, alors, aujourd'hui, le contrat est signé. Qu'est-ce que les Togolais doivent s'attendre à l'heure de ce qui va se passer plus tard, enfin, parce que déjà on sait que le 6 septembre prochain nous avons un match contre le Liberia, et tout cela c'est pour la qualification même d'ailleurs pour la prochaine CAN 2026 bien sûr.
Les Togolais n'ont qu'à prier.
Alors les Togolais, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre
Le nouveau sélectionneur, Nibombé Daré, a été très clair que nous avons mis du temps dans des discussions, alors qu'il y a des choses importantes qui nous attendent. Et donc il dit, le peu de temps qui nous reste, nous allons le consacrer à travailler pour que les résultats escomptés soient au rendez-vous. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pour lui, il a deux objectifs. Le premier, c'est de qualifier le Togo pour la prochaine CAN. CAN Total Maroc 2025. Et le second objectif, c'est de faire de meilleures prestations pour la Coupe du Monde. Je pense que le président de la fédération également qui a dit nous avons des objectifs à atteindre, nous envoie à quoi? Au travail qui sera effectué derrière le nouveau sélectionneur. Il ne faudrait pas que ce sélectionneur-là soit bloqué en ce qui concerne les finances, surtout, et par rapport au programme qu'il va établir pour les sorties ou les matchs amicaux de l'équipe nationale. Les Togolais attendent tout simplement des résultats.
C'est l'essentiel.
Vous allez faire vos querelles de couloirs et tout ça, mais le Togolais, aujourd'hui, sait qu'on a un sélectionneur national. Et le Togolais pense qu'avec ce nouveau sélectionneur-là, l'équipe nationale doit aller de l'avant. Nous disons que c'est le sport qui nous unit, qui nous réunit finalement. Donc, il faudrait que l'on nous écoute. Je veux parler du ministère des Sports et de la Fédération. Il faut nous écouter pour permettre aux nouveaux sélectionneurs de travailler.
D'accord.
On a eu à entendre dans le temps qu'il y a des membres de la Fédération qui s'impliquent dans le choix du sélectionneur et tout ça. Je pense qu'il faut que tout ça là s'arrête aujourd'hui.
Ok.
Et je connais très bien Daré. C'est un gars qui est très minutieux et vous le connaissez. S'il y a ça, il va pas arrêter de nous le dire. Et nous attendons cela.
Eric, d'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous pour ce sujet. Nous allons aborder un autre sujet. C'est concernant cette performance lors du port autonome de Lomé. Il y a beaucoup de journaux quand même qui sont revenus alors sur le sujet, puisque dans les classements, le port autonome de Lomé qui garde bien sûr une place de choix parmi les top 100 des ports du monde. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus alors sur le sujet. Oui, Adam, vous êtes revenu sur le sujet aussi. Vous écrivez, bien sûr, mention honorable du port autonome de Lomé au classement Lyod Lys 2024. Le port autonome de Lomé, un atout stratégique et une fierté nationale. Un autre journal, titre, c'est le journal Audience. Audience qui titre à sa une top 100 des ports mondiaux, une place de plus pour Lomé. Et Eric, vous titrez aussi sur à la une de votre journal par rapport à ce sujet, classement 2024 des 100 premiers ports mondiaux, le port autonome de Lomé garde la main en Afrique de l'Ouest. Alors Adam, oui, vous avez écrit que c'est une fierté nationale le port autonome de Lomé.
Oui, vous savez, lorsque notre pays est coté ou classé parmi les top 100, ce qui est rare quand même, parce que lorsque les performances sont déclaré, il y a des sorties, que ce soit du port autonome de Lomé qui a commencé depuis un certain temps d'en faire en tout cas une sorte de coutume en faisant des conférences de presse pour éclairer l'opinion nationale sur ses performances, etc. On a tendance, dans l'autoflagellation généralement du Togolais, à ne pas véritablement les croire. Mais lorsqu'on est évalué par des institutions aussi sérieuses comme celle-là qui vient de décerner en tout cas le Togo comme ayant fait des performances et pouvait donc faire partie de cette top 100 là, je pense que patriotes que nous sommes, c'est une fierté nationale. Et justement, cela mettra à l'actif d'un certain nombre de réformes, notamment, vous savez, il y a eu l'extension donc du port, il y a eu également la modernisation des infrastructures, il y a eu également la numérisation qui s'est donc introduit, faisant en sorte que les navires réduisent leur temps d'arrêt. Puis c'est de ça également qu'il s'agit. Mais justement, lorsqu'on parle du port, les gens ont toujours tendance à croire que voilà, nous desservons seulement l'Interland. Mais justement, à cause de cette efficacité-là prouvée, le port de Lomé essaie également de recevoir des marchandises, au-delà du fait que aujourd'hui nous avons des navires de dernière génération qui peuvent accoster sur nos côtes. C'est également un élément attrayant et qui permet aujourd'hui de faire en sorte que ce soit les ports du Bénin, de Cotonou, de Tema, etc., il y a des marchandises qui sont qui viennent chercher au port de Lomé. Et justement, c'est à mettre à l'actif de cette volonté du gouvernement qui a mis du sien, qui a mis des moyens pour que cette modernisation puisse attirer le regard et que le port autonome fasse partie du top 100 des ports du monde entier. C'est pas petit, c'est pas
justement, c'est pas petit. Eric, quels sont les atouts dont le port autonome de Lomé dispose pour mériter cette place-là parmi les top 100 des ports mondiaux?
Alors, je voudrais dire quand même que c'est pour la quatrième fois consécutivement que le Togo est placé au premier rang des ports de l'Afrique de l'Ouest. Et les atouts, ils sont nombreux. Je voudrais aussi donner cette information que nous avons eu à publier, je crois, au mois de juin, qui concerne l'amateur MSC, qui a désigné le Togo comme un hub de transbordement vers les autres ports du continent et même vers l'Europe. Et c'est arrivé parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes au niveau de la mer Rouge où les outils attaquent les navires qui passent par ce canal-là. Et donc, cette société a décidé de renvoyer tous ces navires vers le Togo. Et donc, c'est à partir du port de Lomé que tous ces bateaux vont aller desservir les autres ports du monde entier. Je crois que c'est un atout très important. L'autre atout, tout le monde le dit, Adam vient de le dire, le seul port en eau profonde de la sous-région où de gros porteurs, des navires gros porteurs peuvent accoster à tout moment et continuer leur circuit. De même, il y a la sécurité maritime qui tient beaucoup à cœur aux dirigeants du pays. Ce qui fait que quand vous allez à la plage, enfin vous déjà quand vous êtes sur la voie, le boulevard du Mono, vous regardez le soir beaucoup de navires sur nos côtes. En réalité, c'est pas tous ces navires-là qui venaient au port de Lomé pour voilà. Mais c'est pour leur sécurité en passant par la côte. Ces navires viennent rester là pour se faire encadrer.
Puisque notre côte est sécurisée.
Très sécurisée. Et donc, également, l'autre atout, quand nous continuons un peu, on parle de sécurité et de sûreté maritime. Et là encore, le Togo a une avance considérable sur tous les autres ports. Néanmoins, on a des atouts, mais on a également des faiblesses. Les faiblesses, c'est au niveau du travail qui se fait au port. Aujourd'hui, nous avons des armateurs qui font un travail impeccable. Le temps de débarquement et d'embarquement des marchandises sur les navires a considérablement diminué. Sauf que, quand vous regardez le circuit logique, en parlant de la douane, des taxes et tout ça, mais c'est un vrai souci pour les commerçants. Aujourd'hui, nous voyons sur le marché beaucoup de produits dont les prix ont flambé. On vous dit, tout le monde vous dit, c'est à cause des taxes, à cause du port. Oui, c'est une faiblesse. Néanmoins, je pense que les autorités ayant ces informations-là doivent redoubler de vigilance pour que certains qui ont la manette au niveau du port ne fassent pas n'importe quoi pour que les gens nous quittent finalement. Parce que les gens disent on préfère aller chercher nos marchandises dans les autres ports de la sous-région, mais si ce n'était pas à cause du transport qui va se doubler pour nous, on préférerait y aller tout simplement parce que là-bas, les prix sont plus acceptables. Donc, je dis, le port de Lomé a beaucoup d'atouts. Hein, la rapidité de la chaîne de travail, l'espace que nous avons, parce que vous savez également, il y a un troisième quai qui permet de recevoir encore d'autres, beaucoup plus de navires.
De navires, ok. Oui, mais Justin, oui, c'est vrai qu'il y a des exploits qui sont faits, et c'est ce qui nous classe même d'ailleurs dans le top 100 des ports mondiaux. Mais au-delà de tout, il y a d'autres défis également à relever, tels que le souligne tout de suite Eric. Il y a même d'ailleurs l'impact surtout de ces prestations du port sur les commerçants, qui sont même d'ailleurs les premiers prestataires.
Mais en dehors même des commerçants, moi, j'analyse la situation autrement. Parce que chaque fois qu'un rapport est sorti, un classement est sorti, le Togo est toujours classé parmi les meilleurs, que ce soit en Afrique ou au plan international dans le monde. Mais malheureusement, le constat qui est fait est que ce classement-là ne profite pas vraiment aux concitoyens. C'est vrai, bien avant que le port ne soit élargi avec la technologie ou les technologies de dernière génération, que ce soit sur des questions de sécurité, que ce soit sur des questions de sécurité, un travail a été fait depuis bien avant qu'on en soit ici aujourd'hui. Donc le port de Lomé, pour moi, de l'économie nationale, est toujours classé parmi les meilleurs au niveau de l'Afrique. Maintenant, lorsqu'il y a concurrence, vous prenez le port de Hambourg, par exemple en Allemagne, vous prenez le port de Marseille, ainsi de suite. En matière de concurrence, c'est vrai qu'on ne peut pas quand même égaler. Mais il y a lieu quand même de relever qu'un travail est fait. Mais le travail est fait, mais quelle est la conséquence maintenant au niveau des populations? Malheureusement, les taxes sont là. Ça fait que le Togo est classé meilleur, mais la plupart des produits que nous achetons, qui sont dédouanés, sont des produits qui coûtent cher. Au point que le Togolais n'arrive plus à joindre les deux bouts, à manger au moins 2-3 fois par jour. Donc, si cette situation est sur le tapis, je pense qu'il y a lieu quand même de relever qu'aujourd'hui, grâce au port, on peut faire vraiment des affaires. Mais au même moment, il faut penser à la survie des populations. C'est là où moi je ne comprends pas. Parce que si on fait ces classements-là, on établit ces classements-là au quotidien, ou mensuel, ou annuel, et qu'au finish, ce sont ceux-là qui sont les sommités qui en gagnent, et que la population lambda n'arrive pas à s'en sortir, mais je trouve qu'on va beaucoup crier, on va nous recommander peut-être de faire un peu plus de reportage sur le port autonome de Lomé, ou d'écrire des articles payants ou non, mais en conséquence, ça n'aura pas d'effet. Ça va s'exposer. Peut-être que à l'international, voilà, le port de Lomé, c'est un port qui est rassuré, qui est sécurisé. Bon, faites confiance à ce port avec les navires, les co-porteurs qui arrivent. Mais au niveau, au sein de la population, qu'est-ce qu'on ressent? Les produits, Vrivier qui coûtait 12 000 le sac, 14 000 le sac, aujourd'hui, à cause des taxes, se retrouvent à 28 millions, à 28 000 autant pour moi, à 30 000 francs au-delà. Ça fait que la vie est chère aujourd'hui. Donc il faut penser également à cette politique-là, un temps soit peu, de diminuer aussi les taxes et rassurer également les autres opérateurs économiques qui sont de l'autre côté, que ce soit du Niger, du Burkina, du Mali, et ce monde-là qui quitte aujourd'hui peut-être pour le port de Téma ou le port de Cotonou, puisse quand même revenir. Et je pense que comme ça s'explique en économie, plus on gagne peu, on gagne beaucoup. Mais plus on veut chercher à gagner beaucoup, on va gagner peu. Donc il faut revoir cette politique-là aussi.
D'accord.
Alors, je voudrais quand même ajouter
oui, rapidement.
Que en Afrique, quand même, le Togo est classé 5e. En Afrique.
Oui, sur le continent.
Sur le continent africain, le Togo est quand même classé 5e. C'est tout ça, en réalité, c'est par rapport au trafic qui se fait dans le monde. En Afrique de l'Ouest, premier, ça, parce que il y a que les ports du Maroc, Égypte, Afrique du Sud, et qui sont en avance par rapport au trafic, c'est-à-dire les conteneurs qui sont déchargés, qui sont embarquer, etc. Donc, je crois que cela devrait nous permettre de faire beaucoup de choses. Parce que en 2022, on avait fait plus, hein, en termes de trafic, on avait fait plus qu'en 2023. C'est paradoxal. C'est parce que dans les autres ports aussi, il y a eu une diminution que le Togo a encore pris une place dans les performances.
D'accord.
Donc je crois ce que Justin est en train de dire, c'est tout à fait logique. Quand vous avez de ces performances, quand vous avez ces bons classements, il faut tout de suite que ça ait des impacts sur les populations. Et de quelle manière ça doit avoir des impacts? C'est-à-dire que tout ce qui est sur le territoire douanier doit forcément coûter moins cher pour que le citoyen puisse aller les chercher. Puisque ça passe par votre port et votre port performe chaque année. Il faudrait que les autorités fassent cette adéquation-là entre les bons résultats et le panier de la ménagère.
D'accord, ok, merci beaucoup. Oui, non, mais je voudrais quand même qu'on quitte le sujet. On va parler d'une autre institution.
Rapidement. Non, en matière de défis concernant donc le port autonome de Lomé, et justement, qui peut naturellement affecter ce dont parlait Justin tantôt, c'est justement de faire en sorte que ceux-là qui sont des auxiliaires. Parce que des fois, les prix sont fixés, mais au même moment, les auxiliaires, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, qui exagèrent un peu ces coûts-là. Parce qu'il faut les solliciter dans le chemin, hein, pour faire sortir donc la marchandise au-delà de la fréquentation, il faudrait quand même que ce défi-là puisse. Après tout,
ils sont plus nombreux.
C'est tout ça là qu'il faut que on arrive donc à faire la sommation de la cherté de ce qui est fait au port, mais justement ce qui rentre dans les caisses de l'État sont fixés et ce n'est pas autant cher qu'on.
D'accord, merci beaucoup, Justin. Nous allons nous intéresser à une autre institution, c'est l'université de Lomé. Et cette université également qui fait alors des prouesses. Ce n'est pas seulement le port autonome de Lomé qui fait alors des prouesses. L'université de Lomé aussi fait des prouesses. Déjà la semaine dernière, il y a le professeur Adama Kbouda qui est même d'ailleurs le président de l'université de Lomé qui a invité la presse pour lui présenter alors les récentes innovations et perspectives également de l'université. Alors finalement, on dirait que professeur Adama Kbouda est sur les pas aussi du professeur Kokoloko.
Je n'y étais pas, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas comment l'analyser. Mais il y a un fait qui est là, je suivais un élément la fois dernière, je ne sais pas si c'est au Togo ou à l'étranger, et on parle de l'effectif même de l'université de Lomé. Aujourd'hui, qui s'élève autour de 75 000 étudiants, je ne sais pas, pour une place de 10 000 ou 15 000, je ne sais plus trop. Je me rappelle tout plus.
Je sais qu'il y a un journal qui en avait parlé la semaine passée.
Ah, d'accord. Mmh. Donc, et lorsque j'ai écouté ça, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que quand on parle aujourd'hui des innovations au niveau de l'université de Lomé ou les universités publiques du Togo, et moi je me dis qu'il faut y aller pour comprendre. On peut chercher peut-être à exposer. C'est vrai qu'avant c'était pas comme ça. Aujourd'hui, quand vous rentrez, donc les bâtisses sont là, il y a un travail qui est fait. Mais sur le coup, vous analysez, moi je dis qu'il y a lieu quand même d'analyser la réflexion, de ne pas crier victoire tout de suite, entre victoire entre guillemets. Parce que quand est-ce que l'université de Lomé a été créée? C'est dans les années 74-75, si j'ai bonne mémoire, à moins que je me trompe. Maintenant, qu'est-ce qui est fait depuis lors jusqu'à présent? On manque d'amphi, et avec l'effectif qui est là, 75 000 étudiants, pour une capacité actuelle de 10 000 ou 15 000, c'est pas. Non. Il y a lieu quand même d'analyser. Maintenant, le curriculaire qui est aussi enseigné, donc je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Il faut attendre peut-être des semaines durant ou des mois durant avant que les apprenants arrivent à avoir leurs résultats. LMD qui est enseigné là avec les moyens. Bon, moi je pense que c'est trop difficile. Quand vous approchez même ces étudiants là, ils vous diront beaucoup de choses, leurs conditions de travail, de vie sur le campus, et qui en réalité ne rassure plus. Avant c'était pas comme ça, aujourd'hui c'est la croix et la bannière.
D'accord.
Donc c'est en toute sincérité, je reviens également sur ce fait là qu'un étudiant a révélé au cours d'un meeting des organisations de la société civile, qu'une fois on l'a appelé, ils ont touché je sais pas combien là sur le tranche, depuis le mois d'octobre pratiquement rien au jour d'aujourd'hui, mais certains ont loué, certains ont besoin des sous pour se nourrir, pour se déplacer et pour aller étudier. Donc, ces conditions dans lesquelles vivent les étudiants et les étudiantes amènent aujourd'hui les gouvernants à repenser véritablement l'enseignement supérieur au Togo, pas seulement envoyer les parents au niveau des structures qui sont des structures privées, qui aujourd'hui aussi sont contestées par rapport à la façon dont l'enseignement est fait.
D'accord. Eric, c'est vrai que c'est un défi hein, par rapport à ce que et Justin vient de dire, un défi de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est un problème quand même qui est pratiquement sur tout le continent.
Oui. Néanmoins, je voudrais dire hein, que, vous savez, aujourd'hui, il y a le professeur Adama Pouda qui est le président de l'université de Lomé. Ce qu'il a voulu montrer la dernière fois, à mon avis, c'était juste pour dire, voilà, nous sommes en train de sortir de notre situation, je ne veux pas dire de l'ornière, mais de notre situation de précarité surtout, parce que avant, professeur Kokoroko Dodi, franchement, l'université de Lomé était comme, enfin, on disait la brousse. Hein, mais aujourd'hui, quand vous y allez, vous avez des infrastructures qui ont été construites et vous voyez même que l'étudiant a beaucoup plus de facilité pour étudier, même si Justin relevait quelque chose de très important, l'étudiant personnellement n'a pas les moyens pour mieux étudier, mais l'université met en place un cadre qui lui permet quand même, dès qu'il a le peu qu'il a souvent, pour pouvoir mieux étudier. Mais la dernière fois, je pense qu'il y a eu même une visite hein,
tout à fait.
Une visite de presse. Oui, mais je dirais, tout ça, c'est à l'actif de l'équipe sortante du professeur Kokoroko. Et maintenant, je pense que nous avons relevé quand même que le nouveau staff veut aller dans le sens hein, qui a été tracé par professeur Dodi Kokoroko. Ce sera une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on a vu les infrastructures. Il parle, par exemple, de manque d'amphithéâtre. Et j'avoue qu'il y avait des projets qui ont été entamés même, qui n'ont pas encore... qui ne sont pas finis.
Tout à fait, mais puisque cela se trouve dans les perspectives.
Dans les perspectives, voilà. Et donc, je crois que ce sera une très bonne chose qu'on continue dans ce sens-là et pour que l'université puisse encore avoir plus de place.
D'accord. Alors, plus de place, bien sûr, puisque dans le top 100 des universités, surtout dans l'Afrique occidentale, l'université de Lomé occupe alors la deuxième place. Alors, je pense que c'est un exploit, Adam.
Oui, bien évidemment. Vous savez, non, je pense que cette visite-là, tout le monde ne peut pas y être. Voilà pourquoi il est essentiel qu'on puisse donc se partager les informations. Moi, j'ai lu, moi-même, je n'y étais pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que tout ce qui se fait, tout est urgent, hein, tout est urgent. Mais ce n'est pas non plus de l'auto-félicitation. Justement, lorsque vous prenez l'université de Lomé, en tout cas, on se compare d'un point A avec la célérité où nous en sommes. C'est vrai, lorsque vous prenez les universités publiques qui sont parties pratiquement du simple au double des effectifs partout ailleurs, c'est le même problème. Mais lorsque vous les prenez il y a 5 ans, vous constaterez avec les amphis, hein, les nouveaux amphis qui sont créés, on a pu désengorger un peu cet effectif là où pratiquement, lorsque les gens venaient, lorsque vous posez la question aux professeurs, ils vous diront véritablement tel. Il y a aussi les étudiants qui vous diront que voilà, il y a un travail qui a été fait. Mais justement, ce n'est pas parce que ce travail a été fait qu'il faut dormir sur le laurier. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de défis. Puisque récemment, je causais avec un étudiant amateur au Bénin, où par exemple, les réactifs, ils devaient faire donc des analyses, puisqu'ils travaillaient dans des trucs de ce genre. Les réactifs n'ont pas pu être faits. Il faudrait quand même qu'on ait des laboratoires qui permettent aux étudiants de supporter ces coûts-là. C'était par exemple au Nigeria qu'il a su donc envoyer. En tout cas, c'était de l'eau pour être analysé parce que c'était cher, par exemple, au Togo. C'est vrai qu'il y a d'autres laboratoires, mais il faudrait quand même qu'on ait un laboratoire capable de pouvoir offrir ces services à coût abordable.
D'accord.
Et je pense que des défis, il y en a assez.
Justement.
Et justement, c'est quelque chose qui a été fait, mais il reste quand même
beaucoup à faire. Merci beaucoup. Il reste beaucoup à faire. Je suis parfaitement d'accord. Et là, je pense que les premiers responsables de l'Université de Lomé l'ont dit à la presse la fois passée par rapport aux perspectives. Alors, nous allons en arrêter là par rapport au débat de ce matin, puisque nos auditeurs s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat. Nous allons leur donner la parole sur le 90 86 30 35 ou le 91 36 ou 315. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur que nous avons en ligne. Allô?
Radio Canal FM, bonjour.
Bonjour, c'est Ni, le messager de l'amour.
Vous allez bien?
Ça va, et chez vous?
Très bien, comme un ange au ciel.
D'accord, allez-y.
Juste à dire à Ni Bombé Carré tous mes encouragements. Il n'a pas fait son travail. Je lui souhaite bonne chance. Merci. Et bonne émission.
Merci beaucoup, Séni, pour votre intervention 90 86 35 35. Autre auditeur, allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, monsieur le journaliste.
Votre nom, c'est?
C'est monsieur Wiyao depuis une épée.
Monsieur Wiyao depuis une épée. Allez-y, monsieur Wiyao.
Ah, sinon, je voulais rebondir sur le sport aussi. Je dirais à Niobe Daré, bonne arrivée au Togo. Il n'a qu'à seulement écouter nous les auditeurs et il puisse, en ce temps-là, il peut bien travailler. Bon, qu'est-ce que moi je veux en venir? Il y a au Togo ici, nous avons des championnats que nous jouons au Togo ici. Mais le premier buteur, c'est-à-dire le meilleur buteur du Togo, quand il arrive à la sélection, on le met au banc. Or, en matière de football, c'est la chance. En matière de coaching comme lui, il est Nibombé Daré. Il peut avoir la chance. Il peut avoir, par exemple, la Côte d'Ivoire. Quand on a renvoyé le blanc là, celui qui est venu rester là-bas, là, c'était parce que c'est la chance. C'est la chance. Donc, les joueurs aussi, nous avons les joueurs qui ont la chance de marquer les buts. Quel que soit à son endroit où il est, le ballon va venir, il va marquer. En France, l'autre là, Mbappé, il est meilleur buteur en France, mais quand il vient à la sélection, on le fait jouer. Mais je dis à Nibombé Daré de faire tout et tout pour mettre le meilleur buteur du Togo sur le terrain pour que nous puissions voir bien que c'est notre meilleur buteur du Togo. Il n'a qu'à servir pour la nation. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup, monsieur Yao, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, comment vous allez?
Allô, vous m'écoutez?
Oui, je vous écoute. Comment vous allez?
Oui, bonjour Pascal.
Oui, bonjour, ça va?
C'est Diafala Dadewi.
Diafala Dadewi, allez-y.
Je voudrais rappeler à Nibombé qu'il y a un problème au Togo ici qu'on cache. Vous voyez notre stade. C'est un stade qui n'offre jamais de victoire. Quel que soit le talent des éperviers, on ne gagne jamais à Kégué. Donc je ne sais pas comment il va s'en prendre.
Oui, de par le passé, on a eu à gagner quand même.
Et s'il vous plaît, il y a aussi un problème. Par exemple, lorsqu'on parle d'ACK, on parle d'Asco de Cara. Deux clubs de la même ville qui ont été 5 ans champions. Mais il n'y a aucun stade à Cara. Quand Asco sort, on dit qu'il est sorti. Mais quand il joue, on dit qu'il reçoit, alors qu'il est encore en déplacement à Lomé. Asco ne peut pas recevoir, à Lomé doit recevoir à Cara. Donc c'est un problème qu'il faut revoir.
Merci beaucoup, monsieur Diafala, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mardi. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Ça va un peu chaud, vous.
Ça va aussi. Votre
nom... plateau.
Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Votre Allô? Nom, c'est. Oui, je vous écoute. Votre nom, c'est...
Allô, et le plateau?
Ça va. Il semble qu'il...
Je voulais rebondir à propos de...
Oui, allez-y.
Et bonne arrivée à M. Daré. Vous savez, le footballeur, ce qu'on mange aujourd'hui au Togo, à part le football, on n'a rien à faire dans ce monde. Et le ministère a déjà faussé la base. Le Bombé derrière venu, il a dit qu'il veut avaler aussi. Pourquoi imposer Kader comme agent? Votre collègue a dit tout de suite que quand les expatriés la viennent, ils viennent avec leur staff. Ils disent rien. Mais quand on impose un local, il y a la guerre. Le Togolais n'aime pas l'avancement de son frère Togolais. Quand les expatriés la viennent, c'est toujours eux qui décident. Maintenant, aujourd'hui, on a l'opportunité d'un local. Donnons-lui l'opportunité et de le soutenir du bas jusqu'en haut. On a plein d'entraîneurs. Mais ceux-là doivent le soutenir. Mais ils voient que peut-être que c'est un local. Bah, tout a changé. Je souhaite bonne chance à Yves Bombé d'arriver pour qu'il puisse trouver le bonheur pour que le Togo puisse entrer de la tête.
Merci beaucoup pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour le plateau.
Oui, c'est Francis.
Oui, oui, c'est Francis.
Voilà, allez-y.
Salut Adam Adjounou. Pakoudjo.
Oui.
Sans oublier
Justin Anani.
Mon frère Justin Anani. Je voudrais intervenir par rapport au sport. Je crois que lorsqu'on est crisologue et qu'on est chaque fois là à créer des crises au niveau des fédérations, ça ne marche pas. Un travail a été fait en amont et qui a amené à ce qu'un rendu soit fait au ministère qui a dit « Fédération, eh bien, faites telle annonce. » La fédération l'a fait. Et moi, c'est là où je voudrais saluer le colonel Akpovi. Je voudrais le saluer, le féliciter avec le secrétaire général pour le travail immense qui a été fait. Et maintenant, on en était à la fin où il fallait discuter avec les trois ministères qui engagent l'entraîneur, à savoir le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et le ministère des Sports, parce qu'ils seront désormais travailleurs au Togo comme des fonctionnaires sur le plan local. Donc, finalement, qu'on en arrive à tout cet aboutissement de dire qu'il faut imposer tel entraîneur. L'entraîneur dit, je vais travailler avec lui. Et je voudrais saluer Justin qui a fait une analyse très pertinente pour dire que, et Dieu également l'a suivi, pour dire que lorsqu'il n'y a pas le résultat, à qui va-t-on s'adresser? Lorsqu'on impose que voilà, celui-ci doit être ton agent, ton assistant direct, l'entraîneur dit qu'il veut travailler avec celui-ci. Il a donné toutes les raisons qui sont valables. René Kader, de temps en temps, il est à Château. De temps en temps, il part pour la France. Et il est éducateur. Éducateur est différent d'un sélectionneur. Ce que les gens ne savent pas. Un éducateur s'occupe des pupilles, des U. Dans un club, un entraîneur, un sélectionneur, c'est au-delà de ça. Il peut aller de la part d'éducateur pour être sélectionneur. Il faut voir le diplôme requis et Abalo Dossin a beaucoup d'expérience sur le plan national que les autres n'ont pas. Qui a suivi le championnat pendant 10 ans que les autres n'ont pas pu faire. Mais qu'on cherche par tous les moyens à être truc là, à créer des problèmes. Là, il n'y a pas, même s'il y a eu des problèmes, on tient rancune à tous les moyens. Bon, vraiment, je voudrais souhaiter simplement bonne chance à Nibombé Daré et de faire son travail, de ne pas écouter qui que ce soit, à lui d'aligner. Quand Paolo Duarte était là, Kader était dans les tribunes. Il n'était jamais sur le banc, ce que les gens ne savent pas. Mais arrêtons un peu. Aimons beaucoup plus les Togolais que d'aimer les étrangers. Si c'était un étranger, on allait lui dresser la table. Vous allez voir tout ce qui allait se passer. Même s'il n'a pas besoin de champagne, on met champagne à côté pour qu'il puisse laver les mains. Merci.
Merci beaucoup, Francis, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes un confrère journaliste, hein, sportif, bien sûr. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Autre auditeur. Allô?
Allô.
Bonjour, madame ici.
Bonjour, c'est
ici.
Oui. J'espère
que vous allez bien.
Oui, bon. Vous avez refusé de nous pomper aussi avec le football. Hein?
Non, mais puisque, madame, si, oui, mais parce que ça fait l'actualité, donc nous avons décidé également d'en parler.
Ah, là, moi, je vais vous demander là-bas, à chaque fois, là, quand vous prenez un thème comme ça, vous allez débattre dessus durant combien de mois ou de semaines. Comme ça, on est fixé, quoi, et puis on ira planter des choux en attendant que vous finissiez ce truc-là. Et j'ai entendu parler de M. Akpovi, il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas.
Hein? Il est toujours le président de la Fédération togolaise de football.
Et puis, ça n'avance pas. Les soldats sont partout. Le pays est bloqué. Le pays est ruiné. Ça ne leur dit rien. Hein? C'est un soldat, non?
C'est un colonel.
C'est un colonel. Oui, bon, voilà. On n'en a rien à foutre, quoi. Le football, tout ça. On n'en a rien à foutre. On a des problèmes. Le pays est bloqué. Personne ne fait rien. On attend que ça se passe. Hein? Voilà, je ne sais même pas quoi dire. Merci.
Vous avez tout dit. Merci à vous, Madame Essie, pour votre intervention. 90 86 35 35, nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. 90 86 35 35, 91 36 63 75. Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, Pélé.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Ok, je pense que tout le monde a parlé du football. Tant que Pelé ne parlera pas du football, c'est dommage.
Surtout qu'il a Pelé.
Oui, voilà. Ce que je vais dire, bref, c'est que Libombé Daré, certains parlent que c'est un ancien joueur, mais c'est un grand joueur. Mais Stéphane Kessy, Daré a joué plus que Stéphane Kessy. Il a joué plus que Didier Six. Là n'est pas le problème. Le problème du Togo, c'est au sommet. Depuis 1972, qu'on parle de football au Togo. C'est toujours bloqué jusqu'à présent. Moi, je voudrais aller vers le port de Lomé. Vous parlez du port de Lomé qui a un prix ou bien des prix successifs pendant 3-4 fois.
Non, pas de prix, c'est justement un classement dans les temps.
Un classement, oui, oui, voilà, c'est le prix. Quand vous classez, on peut vous donner un prix. Et je pense qu'il faut remercier le président Sylvain Sompio, qui, au lieu d'aller au port de Lomé et de Cotonou, a préféré chercher un port profond au Togo, à Lomé. Et il est parti chercher les Allemands. Deuxième point, il faut aussi voir que dans les années 90-92, quand les sociopolitiques, les troubles-là, le port de Lomé était vidé. Au détriment de Téma et Cotonou. Il faut remercier le docteur Agbemé, qui était revenu. Tout ça, là, ils sont des Togolais. Maintenant, est-ce que le port de Lomé est pour les Togolais? C'est ça. Pourquoi on a vendu? Y a pas, ça, on ne peut pas entretenir ce port-là qui devait peut-être pour nous. Maintenant, on peut le faire, on peut privatiser. Où sont les retombées maintenant? Regardez l'environnement du port de Lomé. Le rond-point port de Lomé. Regardez la voie qui se passe, qui va à Corée-Séoua. Nous avons 5 à 6 banques là-bas. Regardez la devanture là-bas, ce qui se passe. Maintenant, est-ce que nous, les Amogbois, les Douaméa, c'est-à-dire, nous sommes chez quelqu'un au Togo. Toutes ces choses-là dont vous parlez, des prix ou bien des rangs, pourquoi ça ne profite pas aux Togolais? Et ça profite aux étrangers. Mais le Togo, Lomé n'est que un marché d'acquis. Des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens viennent ramasser tout et puis partir. Où sont les retombées? Ça revient à qui? Regardez l'environnement de la Corée-Séoua, tout ça là, là où des gros camions se garent, tout là, tout est dans la boue. Il n'y a pas même pavé, il n'y a même pas petit goudron qu'on peut construire. Bon, on dit qu'il y a des milliards qui sortent là-bas. Regardez l'environnement, le rond-point, on ne peut pas faire un petit échangeur. Au moment où le Bénin, le Cotonou est en train de faire le 4e échangeur avec ce petit port de Cotonou. Regardez tout ça là. Nous, là, Mogboy, ma haute dame, là, Mogboy, qu'est-ce qu'on peut faire à Gokemi Djene, Mao? Mais ayez le courage de faire le vrai débat pour dire que tous ces revenus là, tous ces retombées là, ça va où? Il y a des milliards comme ça là, ça va où?
D'accord. Merci beaucoup, Pelé. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mardi. Chers confrères, nous allons revenir en studio alors pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Madame, vous avez écouté les uns les autres se prononcer aussi sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction ?
Chacun, en ce qui le concerne, a apporté du sien, justement pour améliorer, en tout cas, ce vécu quotidien des Togolais. Mais ce qui est important de mon point de vue, parlant donc du sport, c'est justement pour que, en tout cas, les résultats soient au rendez-vous et faire en sorte que le Togolais puisse retrouver la sensation d'antan en ce qui concerne donc ce sport-là, qui est un véritable outil de fédération des Togolais. Mais j'aimerais un peu interpeller aussi bien les Togolais, sinon les Africains, sur ce programme du PNUD concernant le fait qu'il a lancé un programme « Je suis Sahel ». Pour se départir un peu des clichés négatifs qu'on a connus par le passé et faire en sorte que des vrais, en tout cas des réactions assez positives puissent être dites sur ces trois pays-là qui ont été présentés depuis un moment à la face du monde comme étant des pays où il n'y a que du mal qui se fait. Donc, j'aimerais inviter quand même les Togolais et tous ces Africains-là à faire sien donc ce programme « Je suis Sahel ».
D'accord, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission. C'est entre 0 et 10. Vous accordez peut-être la note à personnalité.
Non, j'accorde la note 5. 5 de part et d'autre, notamment au ministère et à la fédération, qui ont su quand même relever les malentendus pour arriver donc à cet accord-là et que pour les Togolais, ils attendent que les résultats pour faire aimer encore le football, comme je venais de le dire.
D'accord, c'est passable, je pense bien. Oui, Eric ?
Oui, vous avez constaté que les pratiquement tous les auditeurs ont parlé que du football parce que tout le monde aime le football parce que tout le monde pense que lorsqu'il y a un match du Togo, ce n'est plus une histoire de gauche ou de droite, de teint clair ou de teint noir, je ne sais pas. Mais ça concerne tous les Togolais. Et donc, les Togolais pensent que, au vu de la situation, de la conjoncture généralisée et des problèmes quotidiens, lorsqu'il y aura le football qui va aussi marcher, les Togolais pensent qu'on pourra se retrouver et ne serait-ce que pour 5 minutes oublier nos soucis. Et je pense que la situation qui a prévalu pendant presque un mois, on peut se dire que c'est derrière nous aujourd'hui. Maintenant, il faut que tout le monde positive ce qui s'est passé pour que des ondes nouvelles, des ondes positives suivent notre équipe nationale et que nous ayons des résultats. C'est un souhait personnel et je pense que tous les Togolais seront d'avis.
Et je partage ce souhait aussi. Hein. Votre note de fin d'émission ?
Non, je voudrais donner un 8 sur 10 déjà à New World TV qui vient proposer encore toujours dans le cadre du football, la Liga et la Série A, la Liga en Espagne et la Série A en Italie pour ses clients.
D'accord.
Mais je ne peux pas finir sans parler d'un truc très, très important.
Non, mais finissez rapidement.
Oui, ça concerne en fait les productions d'énergie électrique pour l'autoconsommation. Il y a la RSE qui a sorti quand même un communiqué pour demander à tous ceux qui produisent de l'électricité pour leur propre consommation, que ce soit en industrie ou consommation à la maison, qu'il y a quand même des directives qu'il faut suivre et il y a des règles qu'il faut suivre. Quand nous avons sorti ce papier, j'ai été très content de la réaction du chargé de la communication qui nous a appelé et qui nous a mieux expliqué hein, le fondement de ce communiqué-là est très important.
Okay, merci.
Parce que lorsqu'il arriverait des incidents, hein, il faudrait quand même que...
D'accord, c'est un sujet à retrouver dans votre journal, dans paru journal aujourd'hui. Oui, ouais. Justin.
Oui, j'aimerais aborder... Enfin, j'aimerais réagir sur un ou deux sujets.
Rapidement.
Le premier, c'est pour ce qui concerne le dernier intervenant appelé.
Tout à fait.
Peut-être c'est un coup de gueule que j'aimerais également aussi adresser à l'endroit des premiers responsables du port autonome de Lomé. Parce que le classement là, est là aujourd'hui, mais l'environnement du port autonome de Lomé n'illustre pas une bonne image du pays.
Surtout quand on voit cette voie, hein, ou cette voie qui mène vers Corée-Siwa, telle que Pelé l'a dit.
Même dans les environs, donc il y a eu des sociétés de par le passé qui n'existent plus aujourd'hui, mais quand vous montez un peu là, ben, vous voyez l'environnement là, c'est trop sale. Et les gens défèquent un peu partout. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas adopter une stratégie, une politique pour essayer d'améliorer cet endroit-là, même s'il faut construire un hébergement avec tous les moyens modernes. Je n'en vois pas, je ne sais pas trop. Et mon deuxième point sur lequel j'aimerais également rebondir, c'est l'interrogation de l'auditeur. Et moi, je ne peux pas comprendre. Peut-être qu'au temps d'il y a des mois qui a fait 38 ans de pouvoir avant de partir, et au moins on a construit le stade au Omnisports de Lomé. Bon, après c'est le stade de Kégué. Bon, les autres je n'en sais pas trop, parce que quand vous interrogez sur les normes, et ça ne répond pas. Mais depuis, on n'a plus de stade digne de ce nom dans la ville et dans les autres villes aussi. Et de surcroît à Kara, je ne comprends pas. Que à chaque fois que c'est ASK ou c'est Kara qui, à cause de Kara qui doit jouer, c'est le déplacement sur Lomé. Et ça m'amène peut-être à m'interroger énormément pour dire tout simplement que est-ce que les gouvernants arrivent à comprendre le sens, leur responsabilité de ce que c'est que le football dans un pays. Et ailleurs, Paul Biya est là, il est là, il est encore au pouvoir. Mais une fois que la politique sportive, notamment en matière de football, est menée, Paul Biya est toujours là. Donc, j'aimerais également interpeller les premiers responsables.
D'accord, merci beaucoup, puisque notre générique, enfin, Thomas est en train de siffler notre générique de fin pour que, du moins, nous terminions cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Hein. Merci, chers confrères, mais je vous livre rapidement aussi cette note d'information. Un changement important est survenu alors dans le format d'organisation de cette troisième édition de la semaine du e-commerce 2024, initialement prévue en format hybride, c'est-à-dire en présentiel et distanciel. L'événement se déroule finalement exclusivement en ligne sur les plateformes numériques dédiées et pour plus alors aucune cérémonie de lancement, panel ou formation alors ne se tiendra plus alors en présentiel. Tout se déroule en ligne sur la page Facebook la semaine du e-commerce au Togo et pour plus alors de renseignements appelez ou contactez le 91 96 77 77. Chers confrères, merci d'être passé alors dans cette édition et dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Thomas d'Atevi qui a assuré la mise en onde, la mise en ligne, a été assurée par Jérôme Dakoutia. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. Portez-vous bien.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Les laisser se battre l'un contre l'autre pour un oui ou pour un non. Que ces gens corps, c'est le danger, les vis en danger pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent.